La, 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 la.
Bonjour Christian Rizzo, nous sommes donc le 21 avril et nous sommes au Centre chorégraphique national, lieu que vous dirigez, ce lieu qui n'est pas déserté puisque occupé, avec maintes activités maintenues. Bah déjà une question qui peut sembler simple mais qu'on n'ose plus poser aux artistes de nos jours, comment allez-vous?
J'ai l'impression de... Comment je vais ? J'ai l'impression d'être sur des montagnes russes, en fait, voilà. Donc, ça va du meilleur au pire. Bon, ça ne stagne pas, ce qui est plutôt pas mal. Mais oui, non, je passe de... Je pense un peu comme tout le monde, de la colère, de la démontée de vision comme ça, d'arriver à les choper un temps très très court, hop, ça s'évapore en fait. Donc je dirais que c'est une chose qui n'est pas du tout continue, qui est très, qu'on pourrait dire qui est vivante quand même, mais qui n'est pas de tout repos surtout. Parce qu'on ne sait pas où on avance, donc c'est toujours très étrange en fait de partir en forêt quand on ne sait pas quand on va la quitter.
Justement, revenons sur ce contexte qui fait qu'on ne sait pas où l'on va. Le 16 mars 2020, conformément aux mesures gouvernementales visant à endiguer la propagation du virus Covid-19, vous suspendiez, tout comme les autres lieux culturels, vos activités et annonciez l'annulation notamment de toute la programmation. On pense à T de Jordi Galli qui devait être programmé quelques jours après, je crois le 18 mars. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour précisément ?
Bah, déjà ce jour-là, on le sentait venir en fait, hein, puisque c'est pas arrivé quand même du jour au lendemain. On sentait que quelque chose était en train de se passer, des jauges étaient en train de se réduire, etc., etc. Donc moi, le premier truc que je me suis dit, de façon un peu peut-être raide comme ça, je me suis dit la saison est terminée. C'est-à-dire que on savait pas vers combien de temps on allait, mais pour moi, je sais pas pourquoi, en fait, je m'étais projeté, en tout cas, sur le fait que toute la saison était terminée. Donc, ça a été un petit peu choquant, mais même en équipe, je crois, quand je l'ai dit, parce qu'on était pas, on savait pas si on était parti pour 15 jours, pour 3 semaines, mais quelque chose me disait qu'il y avait une rupture et quelle que soit cette forme de rupture, en fait, elle aurait des conséquences beaucoup plus lointaines, en fait, que le moment juste de cette annonce-là et potentiellement qu'on allait se confiner pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, en fait, où on ne savait pas très bien au démarrage. Donc, je crois que ça a été, voilà, je dirais presque un peu naïvement d'encaisser le coup et de se dire, déjà, on va comprendre ce que ça va impliquer surtout. Donc voilà. Donc en plus, bon, moi je suis à un endroit double aussi parce qu'à la fois il y a le fait d'être directeur de la structure, donc c'est-à-dire la structure fermée administrativement, donc arrêt du travail, et donc aussi bien sûr arrêt des tournées puisque c'était le moment en plus où on avait une très grosse tournée qui arrivait. Donc on s'est dit, et puis aucun plan en fait, c'est-à-dire on ferme. On ne sait pas comment on le traite, cette fermeture. Donc c'est ça qui était important. Donc je pense que c'était plutôt d'encaisser ce truc-là, de se dire, là, apparemment, il y avait eu déjà aussi des confinements en Italie, etc. Donc on pouvait imaginer à peu près vers quoi ça allait tendre. Par contre, on ne savait absolument pas, en effet, la temporalité que ça allait prendre. Donc je dirais que c'est une espèce de sidération un peu, de se dire, tiens, il faut arrêter. Mais je dirais que ça serait pour ça. C'est comme la vie s'arrête, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça à part de dire ça veut dire quoi ? Voilà. Et donc il va falloir vivre cet arrêt. Et je pense qu'après on est rentré dans d'autres problématiques, c'est-à-dire en effet de quoi est fait cet arrêt. Il se trouve, c'est marrant, je repense à une chose mais qui est un peu anodine, mais quand même, comme je passe beaucoup de temps en Asie, en fait, la question de la présence des masques est quotidienne, en fait. Dès que quelqu'un a une grippe, quelque chose, met un masque, en fait. C'est-à-dire, c'est pas tant pour pas choper quelque chose, mais c'est surtout pour être sûr qu'il ne transmet pas quelque chose, en fait, à quelqu'un. Donc, je dirais que cette vision-là, je l'ai dans mon regard, en fait, depuis très très longtemps, comme une chose un peu intégrée. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, en effet, il faut mettre un masque. Sauf que j'ai vu qu'en mettant ce masque-là, je créais presque de la terreur, en fait, autour de moi, ce fameux 15 mars 2020, là où je rentre à Montpellier. Donc voilà, de la peur, des peurs aussi très, très, très archaïques, en fait. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire cette problématique, ouais, la vie, la mort. Point. Donc, et pas d'infos, très peu. Enfin, on ne savait pas si c'était une chose qui allait... on allait se retrouver tous contaminés au bout d'une semaine, que ça allait dégommer comme une pandémie de science-fiction. En fait, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait, de rentrer dans cette espèce de dystopie comme ça qui arrivait, et en se disant, c'est marrant, on reconnaît des signes, mais qu'on connaît que par la littérature ou par le cinéma, en fait. Donc, pourtant, c'est là. Donc, c'est-à-dire d'un coup de ramener cette forme de connaissance qu'on peut avoir, ça, qui vient plutôt de formes extérieures à un quotidien.
C'est vrai qu'en effet, c'était de la science-fiction de voir toutes ces rues désertées, de voir ces terrasses de café sans chaises, sans vie. Et à la fois, il y a eu vraiment un retournement de situation. Au début, la peur touchait tout le monde, hein, même les médias, tous les humains, en fait. Et finalement, après, on est tombé dans quelque chose de très anxiogène, où tout d'un coup, il a fallu parler, il a fallu mettre des mots, et beaucoup trop de mots. Et vous me disiez tout à l'heure que, justement, vous en avez tellement eu marre de toutes ces infos anxiogènes, de tous ces mots, que vous avez même quitter les réseaux sociaux, c'était trop en fait.
C'est-à-dire que je... Après, je pense que si je suis vraiment honnête, je crois que j'ai eu un... le mot n'est pas juste, mais peut-être un rapport très romantique avec ce moment-là en disant, bon, c'est peut-être l'occasion d'une pause en fait, de quelque chose est en pause, en suspens. Donc, et quelque part, on réclame depuis tellement de temps d'avoir des moments de suspension, des moments de pause, qu'on s'est dit peut-être... C'est une occasion de dingue, ce qui nous arrive. C'est-à-dire, on va en effet se repenser à quelque chose, enfin, je sais pas, faire un voyage intérieur, j'en sais rien. Enfin, il y avait toute cette chose-là, cette pause-là, et que je voyais que pendant que cette pause-là était en train de se mettre en place, je dirais, les flux dans lesquels on est, pas le flux vivant qu'on peut voir, en effet, au quotidien, mais les flux sur les réseaux, enfin, sur toutes les plateformes, etc., a commencé à s'amplifier, et je me suis dit, mais on est en train de faire le truc à l'envers, c'est-à-dire plutôt que de, finalement, de profiter de cette pause pour essayer de comprendre où chacun en est, en fait, finalement, avec soi-même, dans un premier temps, et avec le monde, comment il se relie au monde. En fait, il y a eu une espèce de déferlement. Enfin, je pense beaucoup aussi à la question du spectacle. Enfin, tout le monde avait quelque chose à dire, tout le monde avait quelque chose à montrer. Des vidéos en non-stop qu'il y a eu... Enfin, très vite, moi, au bout d'une semaine, j'ai eu une espèce d'écœurement de me dire je peux pas supporter, en fait, finalement, que ce moment qu'on est en train de vivre, enfin, on continue à le remplir quoi qu'il arrive, plutôt que de se dire c'est potentiellement un moment de pause pour penser déjà, pas l'avenir, mais au moins là où on est à l'heure actuelle, en fait.
Oui, surtout que, rappelons-le, ça exacerbait les injustices et les inégalités. Certains faisaient leur pain bien tranquillement à faire tout un tas de challenges, et d'autres à côté essayaient de survivre. Quoi.
Et ça a été pour moi une des choses primordiales, parce que on a tout de suite vu, en effet, qu'un arrêt comme ça, même si c'est un arrêt qui est, on pourrait dire, le même pour tout le monde, n'est absolument pas le même pour tout le monde. C'est-à-dire, ne serait-ce que de se dire de se confiner chez soi, le chez-soi, il est multiple. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des gens qui ont des espaces, des gens qui ont des jardins, il y en a qui sont des familles dans 20 mètres carrés, enfin, tout sans aucun rapport avec l'extérieur, etc. Donc ça a mis en fait en place aussi une visibilité sur finalement ce que l'on sait, ce que l'on connaît, mais qui est apparu de façon encore plus évidente, en fait. Et je crois qu'en effet, c'est pour ça que je pense que tout ce qu'on est en train de traverser est très complexe aussi, c'est-à-dire à la fois ce qu'on traverse et comment on va sortir de ça et ce qui va rester de ça. Je pense qu'on va laisser énormément de gens sur le carreau, et que c'est ça qui va être très compliqué, parce que qui aura pu passer cette pandémie, qui n'aura pas pu la passer, en fait. Je ne parle pas que du côté vraiment sanitaire, c'est-à-dire toutes les implications en fait derrière, en cascade en fait, que ça a mis en jeu.
Finalement, ça faisait écho avec votre création Une Maison, puisqu'il s'agissait d'habitat, de savoir aussi l'habitat, le vivre ensemble, hein, c'était aussi sur ces valeurs-là.
C'était ça, mais ça disait au contraire que peut-être que l'habitat n'est pas une chose concrète, dans le sens, c'est pas des murs, c'est faire maison, c'est-à-dire justement, c'est peut-être sortir du bâti pour construire des maisons par la relation, en fait. Donc là, pour le coup, je dirais même que c'était plutôt l'inverse qui s'est produit, mais c'était de partir de l'architecture pour retourner au terrain, sauf que là, c'était vraiment l'inverse, c'est-à-dire que le terrain nous était n'était plus accessible, donc il fallait se réfugier en fait, voilà, entre des murs.
Donc cette maison, faire maison, ça va être notre objectif. Et finalement, après un espoir de réouverture pendant l'été, très vite avorté, puisqu'on a eu des annulations et des annonces d'annulation de tous les festivals d'été en cascade. On pense au Printemps des comédiens et bien sûr la 40e édition de Montpellier Danse qui a été annulée, reportée à l'automne et réannulée. Vous avez pu finalement ouvrir votre saison 6 intitulée « Hypothèse », beau titre, avec les exerces, on se rappelle, donc les étudiants en études chorégraphiques ici même, et vos artistes associés Vania Vano et Jordi Galli. Dans quelles conditions s'est faite finalement cette ouverture de la saison 6 Hypothèse ?
Alors d'abord, on l'a nommé, pour la première fois, on a nommé une saison, puisqu'il n'y a jamais de nom à une saison, et que c'est vrai qu'au moment où on essaie de construire cette saison, on ne savait pas du tout où on allait. Donc, après moult et moult réflexions de se dire est-ce qu'on fait une saison, est-ce qu'on n'en fait pas, etc., je me suis dit ce qui était important en tout cas, c'est de se donner une promesse de rendez-vous entre les artistes et le public. Parce que de toute façon, la question publique, on ne la maîtrise pas du tout. Donc, on peut maîtriser, je dirais, le désir qu'on a de faire rencontrer les gens. Après, la rencontre elle-même, on n'a pas les, voilà, on n'a pas les mains libres pour ça. Donc, je me suis dit, construisons une saison. Mais on va quand même l'appeler hypothèse pour deux raisons, parce qu'à la fois en effet elle est très hypothétique parce que on ne sait pas ce qui pourra se passer, et d'autre part aussi une forme de clin d'œil parce que finalement toutes les propositions des d'artistes en fait pour moi sont des hypothèses sur le monde, donc je me retrouvais aussi dans cette espèce de double sens en fait que je voulais mettre dans hypothèse. Donc voilà, donc on a construit notre saison et on a réussi en effet à faire cette ouverture de saison finalement avec Jordi et Vania. Et c'était très riche pour moi parce que justement on voulait ouvrir par un autre biais, c'est-à-dire plutôt que d'ouvrir par un spectacle comme on le fait habituellement avec une soirée très festive, on s'est dit on a été hors pratique en fait aussi, c'est-à-dire est-ce que c'est le moment de tout de suite recommencer avec du spectacle ou est-ce qu'il ne faut pas commencer par une autre forme et plutôt de se mettre ensemble autour de matériaux, de matières, de se remettre en pratique aussi, parce que je crois que être artiste tout comme être spectateur, c'est une pratique en fait. Et plutôt que de dire finalement rien ne s'est passé, on reprend comme de plus belle et hop, 20h30, on s'assoit, on regarde un spectacle, ciao, bonsoir, c'était super, c'était pas bien, et on passe à autre chose. On s'est dit, ben non, on va étaler finalement une ouverture de saison sur plusieurs jours comme ça, et sur le rapport du geste avec la matière. Donc on a organisé plutôt des ateliers de pratique qui sont très liés en fait au travail aussi de Jordi et de Vania pour construire avec du public, des objets, des gestes, des hypothèses, en fait, de relations entre les corps, mais via de la matière, puisqu'on ne pouvait pas aller de corps à corps. Donc, comment, en fait, des matériaux pouvaient venir faire, en fait, le lien, en fait, entre nous, par de la construction, par du geste, en fait.
Comment est-ce que vous avez pu finalement maintenir l'activité et les missions du CCN dans ce contexte-là ? Je pense notamment au PREAC qui était notamment animé par les artistes associés, qui a été organisé en ligne. Beaucoup de choses qui ont commencé à s'organiser en ligne. Voilà, comment est-ce que vous avez pu faire ensemble, qui était le thème du PREAC, en ligne ?
La chance, je dirais, qu'on a, c'est qu'on travaille avec des artistes, en tout cas Jordi et Vania, qui ont eu cette capacité de rebondir. Donc ça, je trouve, c'est pas rien, en fait, parce que... Enfin, moi, je peux dire, j'aurais été moi-même artiste invité au PREAC. Je ne sais pas si j'aurais pu rebondir aussi rapidement sur dire, mais non, ça peut exister d'une autre forme, etc., etc. Donc, je pense que on est très chanceux aussi d'être entouré d'artistes qui ont cette capacité, je dirais, de remettre en jeu assez rapidement ce qui fait leur travail, sans le dénaturer, parce que c'est ça la grande problématique aussi avec ces choses sur Zoom, sur plateforme, on va dire virtualisées, etc. C'est jusqu'à quel endroit le sens même du travail n'est pas attaqué. Donc il se trouve qu'ils ont trouvé des modalités de faire qui ne sont pas bien sûr celles que tout le monde avait espérées. N'empêche que quelque chose a eu lieu et ce quelque chose est important. Donc voilà, il y a eu cette chose-là en effet qui a pu se faire. Par chance, On a pu garder quand même aussi tous les exerces, enfin tous les étudiants au travail. Les invitations d'artistes ont pu se faire, sauf les artistes venant hors de l'espace Schengen. Donc qui eux sont intervenus en effet par plateforme interposée. Mais je dirais que l'activité, c'est pour ça que très souvent on a dit le lieu est fermé. Non, il n'est pas fermé. En fait, il est fermé au public puisque c'est la seule chose en fait qu'on ne maîtrise pas et sur laquelle on n'a pas de... On sait pas. Le jour où on est en train de se parler là, 21 avril, on ne le sait toujours pas. Hein, donc, mais je dirais que on a été encore plus à l'écoute, je crois, sur les occupations de studios, sur que les processus de travail ne soient pas arrêtés. Ça, c'était vraiment une chose qui était super importante. Même si, je crois, derrière, ça va donner d'autres problématiques. On connaît les questions d'embouteillage et de visibilité, voire même de naissance des projets, finalement, de naissance, c'est-à-dire du moment où ils vont se révéler publiquement, est-ce que ça va avoir lieu ou pas. Mais je crois qu'on a vraiment maintenu, je dirais, le cœur de ce qui se passe au centre chorégraphique, c'est de se dire on produit, on récolte de la connaissance en attente du moment où cette connaissance va pouvoir être partagée. Et ça, c'était super important. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on est resté ouvert tout l'été, qu'on a multiplié le nombre de résidences, on a accompagné énormément d'artistes, pas essentiellement les étudiants du master, mais les studios ont été occupés comme jamais, quoi. Donc, et ça, je pense que ça, c'est aussi, je dirais, à la fois une volonté, mais aussi une responsabilité, en fait, en tant que structure.
Il n'est pas très loin de 25 projets, en fait, en répétition.
Donc, des fois, même en dédoublant les studios, enfin, on a inventé des trucs, enfin, bon. En coupant les studios en deux pour que deux personnes puissent travailler en même temps. Enfin, ça a été vraiment... on s'est tous mis vraiment au boulot comme des cinglés pour... Et là, toute l'équipe là, du centre chorégraphique s'est mis vraiment au boulot pour soutenir au maximum ce qu'on pouvait faire. Et je pense qu'on est allé vraiment au maximum.
Une sacrée effervescence. Et vous, justement, Christian Rizzo, en tant qu'artiste, en tant que chorégraphe, on se rappelle toutes ces pièces, ces spectacles qui étaient en tournée, une maison, bien sûr, d'à côté, en son lieu, la fameuse création pour Nicolas Flagel, ou votre nouvelle création, Magma, qui avait déjà été reportée à deux reprises. Comment est-ce que vous avez pu gérer ces pièces-là? Est-ce que vous avez pu continuer à travailler dessus avec les artistes?
Déjà, une chose qui n'est pas inintéressante, on est donc le 21 avril, donc on en est pour nous à 423 jours sans jouer. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas montré, en tout cas là je parle de mon travail d'artiste, hein, je n'ai pas montré mon travail depuis 423 jours. Donc c'est délirant, puisqu'en effet on avait une très grosse tournée d'une maison d'à côté, le syndrome Yann aussi, enfin on avait plein de dates. Donc tout ça a été reporté jusqu'à devenir des annulations en fait de mois en mois. La grande tristesse aussi, c'était quand même on devait faire D'après une histoire vraie au Corum, qui était aussi une façon aussi de presque de finaliser cette tournée de 7 ans avec D'après une histoire vraie, de la terminer à Montpellier. Donc bon, il se trouve que ça aussi n'a pas eu lieu. Magma avait été créé déjà l'année d'avant, donc ça avait déjà pas mal tourné, mais toutes les dates n'ont pas existé non plus. Je crois qu'il y a eu une date dans la petite période octobre, en fait, où on a réussi vraiment à ils ont réussi à présenter en fait le travail, je crois que c'était à Suresnes, la veille de la fermeture. Donc vraiment c'était et puis il y a eu la création de En son lieu pour Nicolas Flagel, qui pour l'instant n'a pas rencontré le public. La création s'est faite fin novembre à Montpellier, donc finalement on l'a faite pour en interne avec l'équipe du CCN et les étudiants, et pour l'instant elle a été montrée aux professionnels au 104. Mais elle n'a pas rencontré le public, donc on espère, on croise les doigts pour que ça puisse être visible pendant le Festival Montpellier dans cette année. Mais c'était une grande douleur, vraiment. Je pensais que là, je me suis un peu pris au piège moi-même en me disant non, on avance, on avait posé le processus, on va jusqu'au bout, on finit la pièce quoi qu'il arrive et tout ça.
Et finalement, de ne pas le présenter, on n'a pas l'impression d'avoir fini. Quoi. Donc, pourtant, elle existe. Hein, tout lumière, tout est en place, puisqu'on a fait cette présentation au 104 professionnel. Mais ça a été une douleur que je n'avais pas imaginée, en fait, à quel point... La nécessité de la coprésence artiste public, même si on le sait, même si on se le dit, même si théoriquement c'est très inscrit, etc., que quand elle n'a pas lieu, la pièce n'est pas finie, en fait. Et donc on a une espèce de chose comme ça qui est en suspension, on ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien quand c'est que ça va réapparaître. Et ça a été d'une violence extrême, je dirais, je me demande même si ce n'est pas plus dur... pour moi en tout cas, d'être allé jusqu'au bout et de ne pas le montrer, que finalement de ne pas le faire en fait. J'arrive pas... voilà, parce qu'en même temps, j'étais très content du processus de travail avec Nicolas et je suis très content de la pièce. Mais elle a un goût amer en fait. Voilà, donc je crois qu'on porte tout ça, enfin pour les gens qui ont été aussi en création, de se dire... coûte que coûte, on peut répéter, donc ça on le prend, on va pas annuler cette chose-là, mais le reste, voilà, moi je sais pas quand c'est que je vais retrouver par exemple l'équipe de Une Maison. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt pour 2022, on se sera arrêté en 2020, ça veut dire pratiquement 2 ans après. Est-ce que les équipes vont être disponibles? Parce qu'entre-temps tout le monde a répété sur d'autres choses. Retrouver une pièce, c'est pas juste retrouver une pièce, c'est retrouver aussi une énergie, ce qui fait que il y a une cohésion. Et voilà, moi j'ai pas revu les équipes en fait. J'ai croisé quelques personnes, mais j'ai pas revu les équipes. Enfin, quand je dis les équipes, c'est autour d'un projet. Donc voilà, je ne sais absolument pas. Du coup, moi je me dis, bon, mais je me projette sur la nouvelle pièce plutôt. Puisque cette question ne va pas se traîner non plus des histoires de répertoires qui deviennent hyper compliquées parce que ça bouge, sonne de partout. On sait que des pièces qui ont été répétées ne trouveront pas le public non plus, parce que de toute façon, il n'y a plus de place dans les théâtres, parce qu'entre-temps, les programmations ont été faites, etc. Donc je me suis dit, bon, mais la façon d'être positif, c'est quoi? C'est de regarder devant. Et, parce que à force de regarder derrière, de toute façon, on peut être juste attiré derrière. Donc de se dire, ben voilà, il y a un nouveau projet qui était en vue pour 2022, on va s'organiser en fait maintenant pour que cette chose-là ait lieu.
Bon, et puis 2020 s'est achevé, enfin. Et donc vous proposiez notamment dans une newsletter de maintenir l'hypothèse tout en tâchant de réparer et de formuler le vœu d'ouvrir et de réunir. Ces mots étaient bien impactants, puisque le 12 mars, après une AG du mouvement unitaire au Quorum, une occupation avait été décidée donc ici même au centre chorégraphique, intitulée « Ici, on occupe », sur le modèle du théâtre de l'Odéon à Paris. Finalement, comment est-ce que ça s'est passé et depuis où on en est, puisqu'il y a de plus en plus de panneaux, notamment contre la réforme de l'assurance chômage, sur la façade de l'Agora. Avant, les AG étaient tous les jours à 14h sur le parvis de l'Agora. Maintenant, c'est le mercredi et le vendredi à 12h30. Voilà, il y a des commissions, il y a tout un tas d'activités ici. C'est autogéré. Comment est-ce que ça s'est passé et quel est votre regard sur tout ça?
Comment ça s'est passé? Surtout, c'est qu'après, en effet, après ce vote-là du 12 mars, hein, c'est ça hein,
si je...
11 mars, pardon. Mais, le 12 à 14h, toc, 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 bonjour, on vient occuper le centre chorégraphique. Et on leur a dit « bienvenue ». Parce que, tout simplement, on était, nous aussi, engagés sur toutes les manifestations qui pouvaient avoir lieu. Donc, de savoir aussi que c'était une intersyndicale, que c'était pas un groupe, mais bien une pensée commune, en fait, qui était à l'œuvre derrière ça. Donc, on a dit, on va vivre ensemble le temps que ça doit durer. Donc, et c'est pour ça que moi, en effet, il y a ce truc d'occupation, et c'est vrai qu'il y a une occupation, mais pour moi, je me sens plus traversé, en fait, par les événements que occupés, dans le sens où ce qui est réclamé depuis le début et qui a un petit peu bougé aussi, en effet, parce qu'au départ, c'était vraiment, on pensait que c'était que sur la question de la réouverture, mais non, et c'est bien ce que je disais au préalable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des réouvertures à tout prix, c'est-à-dire si on laisse des gens sur le carreau, comment, dans quel état on va réouvrir. Donc en effet, cette question de réouverture des lieux adossés à des acquis sociaux, était pour moi une des données absolument importantes. Donc je dirais que le fait qu'il soit là, d'abord on échange énormément. Je dois même dire que j'ai passé une nuit avec eux aussi. J'ai occupé moi-même le CCN avec une des nuits aussi pour comprendre en effet comment c'était organisé. Et je trouve qu'il y a... ce que je trouve très intéressant, quoi qu'il arrive de toute façon, c'est qu'à un moment donné, tout ça fabrique de la pensée. Et ça, je dirais que je me souviens très bien quand je suis arrivé en 2015, et c'est ce qui est aussi écrit dans mon projet, quoi. C'est-à-dire d'inventer des connaissances, de les rendre partageables, etc. Donc ça en fait partie, en fait. C'est-à-dire que la pensée de l'art n'est pas du tout hors sol. Elle est connectée avec des questions citoyennes, avec des questions, donc des questions politiques, donc des questions d'être ensemble. Donc moi, je trouve ça très, très intéressant aussi qu'on soit pas dans un rapport comme ça de occupation, direction. Non, à un moment donné, on est des citoyens ensemble et on réfléchit ensemble de là où chacun est, sachant que pour moi, c'est il y a pas de choses à mettre en rupture puisqu'on travaille ensemble toute l'année. C'est-à-dire que des gens qui occupent aujourd'hui le CCN sont aussi des collaborateurs dans l'année. Pour certains, sur des projets, que ça soit des techniciens, que ça soit des artistes, on travaille ensemble, on a besoin de cette chose-là. Faut pas oublier que la plupart des lieux d'art, il y a très peu d'artistes à l'intérieur. Donc ça veut dire, et aussi des fois très peu de techniciens. Donc en fait, on est ensemble. Enfin, moi, je ne peux dire que ça, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ils sont les bienvenus. Voilà. Et surtout, je dois dire à quel point aussi l'occupation étant faite pour réouvrir et pour que tout le monde puisse être au travail, parce que c'est ça qui est important, donc ces occupations-là n'empêchent pas le travail. Ça, c'est parce que bon, on peut entendre, oh là là, le théâtre est occupé, donc finalement, on ne peut pas bosser. Au contraire, il y a un respect du travail dingue, puisque tout le monde est dans cette optique-là. C'est-à-dire que je crois que toutes les revendications aujourd'hui sont autour. On veut retravailler. Donc, ils ne sont pas là pour empêcher ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Donc je dirais qu'à partir de cet accord aussi qui est en place, et qui est vraiment, je crois, je dois le dire, extrêmement bienveillant de part et d'autre. Donc, je crois qu'on est ensemble, en fait, sur ces... Tout à l'heure, je parlais de questions d'attention, de bienveillance. On est... on est ensemble sur cette chose-là. Voilà, puis d'avoir choisi le centre chorégraphique, je dirais qu'on était le premier lieu de danse à être occupé pendant très longtemps. Je trouve qu'aussi, symboliquement, ça renvoie quelque chose aussi sur la question de la place du corps pendant toute cette pandémie et ce que ça va donner. Les corps sont amochés, il ne faut pas oublier. Il va falloir penser ces corps-là, quand je dis penser, pas les penser avec la tête, mais les penser avec un A. Il va falloir se remettre encore tous ensemble. Donc ça va être, je trouve que de le voir aussi activé ici, on a invité les occupants à participer aussi à des activités du CCN. Je crois qu'il y a eu moi j'étais pas là parce que j'étais en déplacement, mais il y a eu le club de danse avec Katharina Andréou. C'est-à-dire que c'est pas un face à face. Je crois qu'on est ensemble parce qu'on veut continuer à travailler, en fait, et qu'on a tous besoin les uns des autres pour être dans ce travail-là, et de continuer à promouvoir et d'inventer, en effet, des modalités via des formes artistiques. C'est à ça qu'on est très attaché. Donc, je crois que la question, de toute façon, de l'intermittence depuis toujours renvoie à la question de la totalité de la précarité, en fait, de l'emploi dans tous les domaines, dans le journalisme, on en parlait, pour les auteurs aussi, d'une part, pour les gens qui ont en effet même certains saisonniers, etc. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un, on n'a plus besoin de Chao, quoi. Donc, on avait parlé en effet de cette grande arrivée aussi de l'ubérisation de l'emploi, etc. Donc, on est dans des systèmes de précarisation, de contrats à très courte durée, en fait. Donc, c'est comment penser l'avenir comme ça, en fait, à courte durée, à court terme. Donc, voilà. Mais moi, je pense que de toute façon, c'est ça aussi qui fait la richesse d'un pays. C'est bien sûr sa culture, mais c'est surtout aussi le capital bien vivre des citoyens, en fait. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante. Et la question de l'emploi en fait partie aujourd'hui, de fait. Pour moi, ce qui est plus important, c'est de savoir finalement quelle place on veut donner à l'art dans le monde. Véritablement, je pense que c'est peut-être, et de quel monde on veut, voilà. parce que je crois que toutes les pratiques artistiques et culturelles, c'est ça, c'est de tenter de faire des hypothèses de formes qui viennent se poser, comme je disais tout à l'heure, une fois de plus, entre soi et un autre. Et c'est ça qui fait monde, et je crois que l'art fait monde. Donc maintenant, la grande question qu'il va falloir se poser, c'est de quel monde on veut, puisque l'art en fera toujours partie. Donc c'est maintenant, c'est quel monde, en fait, on veut. Que ça soit essentiel, que ça ne soit pas essentiel, l'art existera toujours. Donc il n'a pas besoin d'être essentiel ou pas essentiel. Je pense que ces pratiques-là, elles sont inscrites, elles sont vivantes, elles font partie de l'être humain. Donc dire que l'art n'est pas essentiel, ça voudrait dire que l'humanité n'est pas essentielle dans sa façon de se constituer, dans sa façon d'inventer des formes pour vivre ensemble. Si ça, c'est pas essentiel, ça ouvre un autre débat.
Merci beaucoup, Christian Rézo, pour votre temps et de continuer à faire vivre ce lieu, Centre chorégraphique national.
Avec grande joie et grand engagement.